Hachem, notre troisième cours, sur le chapitre 46. Écrivez un peu, passer un livre, s'il vous plaît, un livre blanc. Donc, pour résumer, dans le chapitre 46, un chapitre passionnant, on a donné un exemple. L'exemple qu'on a donné, c'est le fameux exemple
du clochard.
Vous vous rappelez l'exemple du clochard? On a donné un exemple pour expliquer que pour aimer Dieu, il n'y a pas besoin en vérité de faire un effort pour l'aimer. Il suffit simplement de réaliser que Dieu m'aime pour l'aimer en retour. En d'autres termes, et ça on pourrait l'appliquer même dans notre vie, mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, comment tu veux que j'aime quelqu'un si lui ne m'aime pas ? Comment tu veux que j'aime mon fils, ma femme, mon ami, si lui ou elle ne m'aime pas? La chassidoute nous apprend, ce qu'on a expliqué longuement dans le chapitre 46, que lorsque tu aimes sincèrement quelqu'un, automatiquement, avec le temps, lorsqu'il va réaliser que tu l'aimes, il ne peut que t'aimer en retour. C'est une question de temps. Puisque l'amour est réciproque. L'amour est comme un miroir. Lorsque tu vois quelqu'un qui t'aime, tu as envie de l'aimer. Lorsque tu vois quelqu'un qui ne te supporte pas, tu as envie de ne pas le supporter. Et on a donné un exemple pour illustrer ça. C'était l'exemple du fameux clochard. Donc l'exemple d'une personne, un clochard, personne défavorisée, qui traînait dans les rues. Et il y a un roi qui vient le chercher. Non, le roi, il n'a pas besoin de lui. C'est pas, en général, dans les relations, il y a toujours un intérêt quelque part, une relation d'intérêt. Là, il n'y a aucun intérêt, le roi n'a aucun intérêt avec ce clochard. Le roi, même s'il veut s'occuper d'un clochard, parce qu'il dit, dans mon royaume, je veux qu'on s'occupe de tous les défavorisés, il aurait pu envoyer un service d'ordre qui va s'occuper de ce monsieur, qui va l'amener, etc., et tout serait bien passé. Mais le roi ne fait pas ça. Le roi va aller, lui-même, en personne, pour aller chercher ce monsieur, pour l'amener dans son palais, pour s'occuper de lui, et pour le faire rentrer dans un endroit où même les ministres ne rentrent pas. Alors, on a expliqué que naturellement, s'il vous plaît, merci. On a expliqué que naturellement, une personne qui est comme ça défavorisée, qui est clochard, c'est quelqu'un qui devient insensible. Et il pense que tout le monde lui veut du mal. Mais même une personne qui est tellement insensible, lorsqu'il se rend compte de l'amour que lui porte le roi, il ne peut pas s'empêcher de lui rendre cet amour et de réaliser à quel point ce roi l'aime. Alors évidemment, ça c'est une parabole, telle qu'on l'a développée. Le roi, c'est qui ? C'est Dieu. Le clochard, c'est qui ? C'est nous. La poubelle, c'est quoi ? C'est l'Égypte.
Ah bon,
ouais. L'Égypte où on était. Lorsqu'on était en Égypte, Dieu est venu nous chercher. Il aurait pu envoyer des anges pour venir nous chercher, il aurait pu envoyer des tas de choses. Dieu est venu en personne. Il a dit, je viens vous chercher. Bon, il est venu nous chercher, il vient nous chercher, c'est bien. Après, Dieu a dit, je vous fais rentrer dans ma chambre. C'est-à-dire quoi faire rentrer dans ma chambre? Ça veut dire, je vous donne ce que je n'ai pas donné à mes ministres. Qui sont les ministres de Dieu?
Les anges.
Les anges. Je vous donne ce que je n'ai pas donné à mes anges. Tous les anges attendent. Ils savent que j'ai la Torah, qui est mon plus beau trésor. Et tout le monde attend. Mais à qui Dieu va-t-il donner ce grand trésor? À qui va-t-il le donner? Et Dieu ne dit rien. Arrive le jour du don de la Torah. Dieu leur annonce. Il leur dit, c'est pas clairement qu'il annonce. Il le fait. Il prend la Torah et il la donne au clochard. Il prend son trésor. Il fait rentrer le clochard dans son palais, il lui dit, c'est à toi que je donne mon trésor. Les ministres sont comme des fous. Il dit, mais c'est quoi ce délire? Nous, on a toujours été à tes côtés, le roi, etc. Tu prends un clochard, tu lui donnes comme si de rien n'était. Seulement, le roi a décidé. Le choix du roi s'est dévolu sur le clochard. Et donc, le roi aime le clochard. Donc, automatiquement, le clochard ne peut qu'en retour qu'aimer Dieu. Alors, évidemment, on ne dit pas tout ça pour nous déprimer. On dit tout ça pour nous expliquer à quel point Dieu nous aime. Et qu'il n'y a pas besoin de faire un effort pour aimer Dieu. Il suffit de réfléchir au fait que Dieu nous aime pour automatiquement aimer Dieu en retour. Ça, c'est la notion qu'on a expliquée. Alors, avec ça, on va expliquer, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va expliquer pourquoi dans toutes les mitzvot, le but de toutes les mitzvot, c'est de nous attacher à Dieu. C'est exactement comme le clochard qui rentre dans le palais du roi. Le roi lui dit, tu vas rentrer dans mon palais. Tu vas rentrer dans ma chambre. Tu vas t'attacher à moi. Donc, on est sorti d'Égypte, ça on le sait. On n'est plus dans la poubelle maintenant. On est sorti d'Égypte. Mais comment on rentre dans la chambre, dans le palais du roi? Comment on rentre dans la chambre du roi? On rentre dans la chambre du roi lorsqu'on fait des mitzvot. Chaque mitzvah qu'on fait. Alors, on va lire ensemble maintenant, je suis à la page 330. Tour. 330. Vezehu Sheketuv. Avec ce qu'on a expliqué, que lorsque je fais une mitzvah, je m'unis avec Dieu. De la même façon que le clochard s'unirait avec le roi, d'accord? On a dit qu'il s'embrasse et qu'il s'enlace, etc. Et bien de la même façon, moi aussi, comment j'embrasse Dieu, comment j'enlace Dieu, comment je m'attache à Dieu, c'est lorsque je fais des mitzvot. Alors on va lire ensemble. Vezeh Shekatuv, on va comprendre ce qui est écrit. Vihitem li kedoshim, vous serez saints pour moi, ki kadosh ani Hashem, car moi Dieu je suis saint, page 330, va avdil etrem mina amim liotli, et je vous ai séparé des autres peuples pour que vous soyez miens. A priori, ce verset est très bizarre. Dieu est en train de dire, vous serez saint,
et moi je suis saint,
parce que moi je suis saint. J'ai envie de lui dire, toi c'est toi,
et moi c'est moi.
Et moi c'est moi.
Ouais, mais...
Dieu il te dit, vous serez saint parce que je suis saint.
C'est une évidence.
C'est pas seulement que c'est une évidence. Toi, on le sait que t'es saint.
Ben voilà.
Alors quoi? Parce que toi t'es Dieu, moi je suis Dieu?
Non, c'est pas ça.
Alors comment ça fonctionne? Plus que ça. Il y a un autre verset qu'on va lire tout à l'heure dans le schéma, et j'ai terminé le cours avec ça la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière c'était pourri, mais la semaine d'avant. Véomer, il est écrit, va si t'aime, on va lire dans le schéma. Va'asitem et kol mitzvotai. Dieu nous dit, vous ferez, vous accomplirez tous mes commandements. Vihitem kedoshim lohechem. Et vous serez saints pour votre Dieu. Ani Hashem elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset? On remarque une notion d'appartenance. Très intéressant. Baruch ata Hashem. Béni sois-tu l'Éternel. Elokeinu. Notre Dieu. On se l'approprie. Dieu il dit, Ani Hashem, je suis l'Éternel, Elokechem, votre Dieu. Pourquoi Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu? Est-ce que Dieu n'est-il pas le Dieu de toute l'humanité?
Non, mais il nous a choisi.
Donc il aurait dû dire, Ani Hashem, Ha Elokim. Je suis l'Éternel, Dieu, le Dieu. Pourquoi il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu? Il dit, vous serez saints, car moi je suis saint, et je vous ai séparés, afin que vous soyez à moi. Donc vous voyez la notion d'appartenance. Il dit, je vous ai séparé pour que vous soyez à moi. Dans le schéma qu'on va dire tout à l'heure, vous ferez toutes mes mitzvot, va assitem et kol mitzvotai, vous ferez toutes mes mitzvot, d'accord? Et vous serez saints pour votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a une notion, non mais attendez, ça c'est une notion que Dieu dit seulement aux Juifs. Aux nations, Dieu ne leur dit pas, je suis votre Dieu. Il dit, je suis Dieu. Je suis le patron. Tu dois m'écouter. Dis pas, je suis ton patron. Le PDG, il vient pas te dire, je suis ton patron. Il te dit, je suis le patron. Le patron. Tu dois m'écouter. Dès que tu dis ton, t'as une notion de relation, d'appartenance.
C'est intime.
Ça veut dire, c'est intime. Et d'ailleurs, jusqu'au don de la Torah, Dieu n'a pratiquement jamais employé de notion d'appartenance. Toujours on parle de Dieu. Même lorsqu'Abraham parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Il dit pas je suis ton Dieu. Il n'y a pas de ton, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas d'appartenance. Il y a Dieu et il y a moi. C'est tout. Je dis pas à Dieu mon Dieu. Et Dieu ne dit pas mon fils. Ça n'a pas tout ça. Dieu, on lui parle en tant que Dieu et Dieu il nous parle en tant que subordonné. Ça s'arrête là. À partir du don de la Torah, comment a commencé le don de la Torah? Première phrase du don de la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu.
Mon Dieu.
Qui t'a fait sortir d'Égypte. Voilà comment commence les 10 commandements. Pourquoi? Maintenant, on comprend pourquoi. On a expliqué longuement dans l'exemple du clochard que le roi est parti chercher le clochard qui était donc défavorisé. Il a fait rentrer, donc non seulement qu'il l'a enlevé de sa poubelle, il le fait rentrer dans son palais, et il le fait rentrer dans un endroit où personne ne rentre. Et donc le roi est en train de s'approprier ce monsieur, de lui dire, voilà, tu vas venir avec moi, tu vas être dans la même chambre que moi. Donc il y a une notion de, enfin, c'est pas de propriété, d'appartenance, une relation proximité intime, aussi, proximité. Hein. C'est pour ça que Dieu, le premier mot qu'il dit, dans les 10 commandements, c'est quoi? Parce que c'est là que ça commence, c'est là que Dieu nous fait rentrer dans sa chambre. Il dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à chacun de nous, et il lui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu.
Oui, mais c'est les autres.
Le Dieu de Joseph, le Dieu de M. Bonneau, le Dieu de M. Nita, le Dieu de tout le monde. Ton Dieu. Et la Gemara a dit que chaque personne sentait que Dieu lui parlait personnellement. Parce qu'il aurait dû dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Non, même pas. Dans les 10 commandements, c'était encore plus fort. Chacun sentait qu'on parle à moi.
C'est-à-dire qu'on a une relation individuelle.
Une relation individuelle, oui, exactement. C'est pas qu'on était un peuple de clochards et que Dieu nous a sauvés. C'était carrément Dieu dit, je suis venu te chercher individuellement. C'est énorme ça. Et c'est pour ça que vous remarquerez, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit, on fait une beracha avant. Quelle beracha on fait? Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'éternel, Elokeinu, notre Dieu. Vous voyez comment commence la phrase? Hashem, d'abord c'est Dieu. Dieu, il est grand, Dieu, il est fort. Après c'est Elokeinu, notre Dieu. Mais les cholam, le roi du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, lorsqu'ils sont en galère, qu'est-ce qu'ils disent? Mon Dieu. Dis pas Dieu, aide-moi. Dis, oh, mon Dieu. Pourquoi il dit mon Dieu? C'est comme, j'aurais dit mon père.
Ah oui.
D'accord? Non, mais comme je rappelais mon père, je dis papa.
Bah oui.
Et là, c'est moi, je me l'approprie. Je dis mon Dieu. Mais mon Dieu. Kedoshim. Ça veut dire quoi?
Kedoshim,
ça veut dire séparé. Kadosh est séparé. Dieu dit, je vous ai séparé des autres. Exactement comme le roi a pris le clochard et il a séparé de tout le monde, même de ses ministres. Exactement.
Pourquoi il dit ça?
Parce que Dieu dit comme ça, moi je suis séparé. Dans mon palais, dans ma chambre, je suis séparé de tout. Dans ma Torah, je suis séparé de tout. Et lorsque vous faites la Torah, je vous amène avec moi dans le lieu où je suis séparé. Séparé de qui? Séparé des autres nations et séparé même des anges. Même des anges. C'est ça ce qu'elle veut dire. Dieu dit, je vous ai séparé des autres. Vous êtes une autre ligue. Vous ne jouez pas comme tout le monde. C'est une autre ligue.
D'accord.
Rien à voir.
On est supérieur aux anges dans ce cas-là.
Je ne peux pas dire supérieur. C'est une autre ligue. Séparé. C'est pas du tout la même ligue. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'innovation principale du don de la Torah. Donc, lorsque tu comprends ça, tu comprends que Dieu a mis tout le monde de côté pour toi. Est-ce qu'on le méritait vraiment? Je ne sais pas si on le méritait vraiment. Dieu, il a mis tout le monde de côté. Voilà, Dieu a dit, je ne te demande pas ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas. Je viens te chercher, je m'occupe de toi, je m'occupe de toi, et je te dis que je te fais rentrer dans ma chambre, et je te dis que de la même façon que moi je suis séparé, eh ben je te sépare des autres avec moi. Mais attention. Oui, je comprends. Mais attention, Dieu a dit, pour que tu fasses partie de ce projet, il faut faire la Torah. C'est-à-dire que la clé pour entrer dans ma chambre, c'est quoi? C'est la Torah. Si t'as pas la Torah, et les mitzvot, dans ce cas-là, t'es comme le ministre. Et quand t'es comme le ministre, tu fais pas le poids avec le ministre, parce que les anges, ils te bouffent.
Bah, c'est clair.
C'est-à-dire que là, en vérité, Dieu dit, moi, je te donne un passe-partout. Le passe-partout pour entrer direct dans ma chambre. Tu veux faire le malin, tu dis, moi, je prends un passe-partout. Dans ce cas-là, t'es les anges, ils vont te bouffer. Mais si tu as le passe-partout, c'est la Torah et les mitzvot, avec la Torah et les mitzvot, tu rentres directement dans mon palais.
Maintenant, c'est l'illustration avec pourri qu'on vient de passer.
Aussi?
Bah, sûr. Ouais.
Vous avez dit oui. Tout à l'heure qu'il nous a choisi parce que je sais pas quoi là, tout ce que
je sais pas quoi, c'est sérieux, c'est pas sérieux.
parmi tous les peuples, etc., etc. Mais avait-il le choix, étant donné que lorsqu'il a proposé ce service aux autres nations,
mais
tout le monde l'a refusé.
Monsieur Benita.
C'est une
parabole. D'abord, c'est pas que c'est une parabole.
Non.
C'est que réalité. Si vous voulez, oui, mais attendez. Nous aussi, pour qu'on dise oui, il nous a mis la montagne sur la tête.
Voilà.
S'il avait mis la montagne sur la tête aux Arabes, ils auraient dit oui aussi. Hein. Vous comprenez?
C'est pas sûr, ils ont pas de tête.
La blessure. J'aurais dit non, mais il faut être simple. Ah, ils sont plus intelligents qu'on le pense. Alors, c'est évident qu'ils auraient dit oui.
Pas, hein.
Seulement, Dieu voulait, il nous a sélectionnés. Sans raison. Vous savez, il y a un texte dans la paracha des Varim qui dit comme ça. Qui dit, Chumash Varim, qui dit, Dieu ne vous a pas sélectionnés parce que vous êtes les plus nombreux. Parce qu'on est les moins nombreux de la terre. Dieu ne vous a pas sélectionné non plus parce que vous êtes les plus intelligents. On n'est pas forcément les plus intelligents. On n'est pas forcément les plus beaux, on n'est pas les plus riches. Dieu nous a sélectionnés comme ça.
parce qu'il nous aime. C'est très fort, ça. C'est-à-dire, les gens, ils pensent, c'est normal de nous sélectionner. T'as vu, on est les meilleurs.
On est en vert, déjà.
On est les meilleurs. Là-bas. C'est normal, on est les meilleurs. Bien sûr qu'on est les meilleurs. Jamais je vous dirais que nous ne sommes pas les meilleurs. Mais Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on est les meilleurs. Dieu nous a choisis parce que c'est comme ça. Parce que même si t'es un clochard, il vient te chercher, il te ramène dans son palais, et il te dit, je te donne à toi ce que je donne pas à mes anges. Quand tu réfléchis à ça, tu ne peux pas t'empêcher d'aimer Akadosh Baruch Hu.
Il y a quand même une constance dans les choix divins que Dieu fait. On s'aperçoit au fil de la Torah qu'à chaque fois qu'il va choisir, en premier de la Torah, il va prendre le mont Sinaï, un mont. Il aurait pu prendre l'Everest. Il prend un mont, c'est petit, c'est ridicule. Le roi David, c'était un berger. Il va s'adresser à Moïse à travers un buisson. Il aurait pu prendre un cèdre.
Laissez-le finir.
Ça ne peut pas être vrai.
Attendez, laissez-le finir, s'il vous plaît. Oui. Oui.
J'ai l'impression que Dieu s'adresse toujours au plus faible. Enfin, au plus. Au moins disposé à recevoir les choses d'un point de vue purement. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Mais c'est exactement l'exemple du clochard.
Oui, tout à fait. On retrouve cette notion à travers tous les choix que Dieu fait.
Oui, bien sûr.
Ça casse pas de tête.
Israël, c'est pas non plus façon de parler. C'est un tout petit pays. Enfin, on voit que lorsqu'il fait des choix, il va pas choisir forcément le plus grand, le plus beau, le plus fort.
On n'est pas du tout le pays le plus fort.
Non, certainement pas. Non.
Et on trouve pas du tout dans ce choix
de logique
cohérente.
Voilà, exactement. Vous savez, une fois Golda Meir. À un moment, ils étaient en litige avec les Américains.
Et en haut, il y a le gros bout. Nous, c'est le petit bout de la.
À un moment, Golda Meir. Golda Meir, il savait que s'ils allaient faire quelque chose, ils allaient être en litige avec les Américains. Donc il devait envisager toutes les possibilités, et ça risquait même une guerre des Américains. C'était à l'époque de Golda Meir. Alors on raconte qu'à un moment, Golda Meir, donc il y a les généraux qui sont autour, qui disent, mais les Américains risquent d'être pas contents. Ils disent, bon, et alors qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, ils risquaient carrément d'entrer en guerre. C'était un acte très très grave. Ils risquaient d'entrer en guerre. Alors il dit, bon, ok, on entrera en guerre. Alors Golda Meir dit, bon, donc imaginons qu'un scénario que les Américains rentrent en guerre contre nous. Très bien. Donc, alors les gens disent, oui, c'est clair qu'on va perdre, etc. Golda Meir dit, qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Qu'est-ce qu'on fera des États-Unis?
C'est tout à fait ça.
C'est bien, il faut toujours être optimiste. Mais évidemment, on n'est pas le peuple le plus fort, de loin.
Vous avez rappelé que les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Jamais.
Première, deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale.
Ils ont une bénédiction qui est indéniable.
Ils ont entamé des guerres quand j'en ai fini.
Oui, mais ils ont une bénédiction qui est indéniable.
Oui, mais une guerre vraiment, vraiment.
Aujourd'hui, ils sont devant de la scène dans le monde. Avec eux, les Russes, mais les Russes, pas vraiment. Ils sont devant de la scène, il n'y a pas de question dessus. Et c'est pas d'aujourd'hui.
L'Afghanistan, le Vietnam.
Oui.
La Russie, c'est pareil. Hein,
mais qui arrive à terminer des guerres? Personne ne termine des guerres aujourd'hui. Ok. Alors, on dit, on l'a fini? On a terminé la guerre?
Pourquoi on est toujours en guerre?
Pourquoi on est toujours en guerre? Tant que ma chère n'est pas là, la guerre ne se termine pas.
C'est clair.
Aucune guerre se termine.
C'est clair.
Les mêmes problèmes qu'il y avait à la guerre de 6 jours, il y a le même problème aujourd'hui. Les mêmes. C'est les généraux qui changent et.
Toujours avec les mêmes personnes.
Toujours les mêmes personnes. Les mêmes acteurs. On prend les mêmes, on recommence.
Il y a aussi l'autre côté de la facette, c'est que c'est un problème économique mondial, la guerre.
Bon, alors, je veux pas qu'on s'éloigne, on va rester sur le sujet. Donc, Pirouche, ça veut dire, je suis en bas de la page 330, qui a lié des Kiyuma Mitzvot, Dieu est en train de nous dire, par l'accomplissement des Mitzvot, Areni Eloha Shelachem, je suis votre Dieu. Exactement comme Dieu est en train de dire au clochard, je te prends. Mais par contre, il faut que tu accomplisses les mitzvot. Kemo, deux secondes. Kemo, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak. On sait par exemple, on commence dans la Mida. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Eloke nous notre Dieu, Veloke avoté nous et le Dieu de nos pères. Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Très intéressant comme phrase. Donc notre Dieu, donc c'est mon Dieu, le Dieu de Mendia Souline, le Dieu de Monsieur Benita, etc. Et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. Pourquoi je vous ai parlé d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? puisque de toutes les façons Dieu est mon Dieu, pourquoi j'ai besoin de passer, de transiter par Abraham et Tréquia? En fait, de seconde, s'il vous plaît, excusez-moi, la réponse est très simple. C'est pour te dire la chose suivante. Pour te dire, de la même façon que Abraham, Yitzhak et Yaakov sentaient que Dieu était leur Dieu. Pourquoi? Eux, ils ont eu ce mérite parce que eux, ils se sont effacés complètement devant Dieu. Tellement ils se sont effacés devant Dieu que Dieu leur a dit, eh ben, je suis ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Sauf que, avant le don de la Torah, pour avoir ce degré d'appartenance et de proximité avec Dieu, il fallait être au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire qu'il fallait s'effacer complètement devant Dieu. Rappelez-vous l'exemple qu'on va citer tout de suite, l'exemple de du char. C'est-à-dire s'effacer complètement comme le char. Vous savez, le char, que dès qu'il tourne à droite, il tourne à droite. C'est-à-dire qu'il s'efface, il n'a aucune volonté propre. Aucune volonté propre. Avant le don de la Torah, pour être proche de Dieu et pour être au niveau de dire « mon Dieu », il fallait être effacé devant Dieu, avoir aucune volonté propre comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, on va comprendre maintenant la Kavana dans l'Amida. On te dit, sache qu'à partir du don de la Torah, en simplement accomplissant les mitzvot, lorsque j'accomplis une mitzvah, que je ne peux pas me dire que je me suis effacé complètement devant Dieu, eh bien tu arrives au même niveau qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu peux t'approprier Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu, notre Dieu, Veloke Avotenu, et le Dieu de nos pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est mon Dieu, de la même façon qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob. Pourtant, leurs agissements, leurs comportements étaient des années-lumière de mon comportement. On te dit, c'est pas grave. Je suis un clochard, je le sais. Abraham n'est pas un clochard. Abraham, c'est un boss. Abraham, il est arrivé, il a mérité ce niveau de s'approprier, de dire, c'est mon Dieu. On te dit, toi, tu ne l'as pas mérité. Tu n'as rien mérité, toi. Seulement, qu'est-ce qu'on te dit? Dieu est venu, il t'a sélectionné, il t'a fait rentrer. Seulement Dieu te demande une chose. Dieu, il te dit, lorsque tu fais une mitzvah, eh ben, tu es exactement au niveau qu'Abraham Yitzhak Yaakov. Vous comprenez?
À ce point-là.
Ouais. À ce point-là. C'est pour ça que dans la Mida, on dit, notre Dieu est le Dieu de nos pères, Abraham Yitzhak Yaakov. Pour te dire.
On s'associe à lui.
Kiff, kiff, c'est la même chose. Pourtant, lui, regarde le travail qu'il a fait. Et toi, t'es un bourricot. Enfin, toi, moi. Ouais. D'accord? Quel travail? T'as rien fait? On te dit oui, à partir du don de la Torah, le simple fait de faire une mitzvah, je fais la mida par exemple, eh ben je suis exactement au niveau qu'Abraham Yitzhak Yaakov. Ça c'est énorme ça. Quand tu refais ça, tu dis mais Dieu me doit rien du tout. Qu'est-ce que je lui ai donné finalement? Qu'est-ce que je lui ai donné pour qu'il me mette au même niveau qu'Abraham Yitzhak Yaakov?
Ça veut pas dire qu'on s'adresse plutôt au même Dieu qu'Abraham
Yitzhak Yaakov? Non, justement, parce que dans ce cas-là, on aurait dû dire béni sois-tu, le Dieu d'Abraham Yitzhak Yaakov. C'est pas ce qu'on dit.
Quand on bénit quelqu'un, on dit béni machin chose. Mais
c'est pas comme ça que commence l'Amida. L'Amida ne dit pas béni sois-tu le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Non. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob. Normalement, comment on aurait dû dire? On aurait dû dire béni sois-tu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob, notre Dieu, d'accord? Donc le Dieu de nos pères et notre Dieu. C'est pas comme ça qu'on dit. On dit non. On dit notre Dieu, autant qu'il est le Dieu de nos pères, autant qu'il est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob.
On se met au même niveau, en fait.
Le Dieu de nos pères et le Dieu d'Abraham, Yitzhak et
Jacob. Si tu veux, le Dieu de nos pères, c'est pour dire nos pères, ça veut dire chacun connaît son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc. Donc c'est le mérite de nos patriarches, la filiation. Mais on commence pas par eux, on commence par nous. Je suis en train de dire qu'avec ma mitzvah, je suis au même niveau que mes patriarches, je suis au même niveau qu'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est énorme, ça. Et c'est ce qu'il dit ici. Vekara ou Bechol Nefesh. Alors, excusez-moi. Kemo Eloke Abraham, Eloke Yitzhak. Page 331, en haut. Exactement comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov, je suis au même niveau. Sauf que les patriarches, pourquoi ils avaient cette appellation? Pourquoi ils pouvaient dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov? Parce qu'ils étaient complètement effacés devant Dieu. Parce que moi, je suis effacé devant Dieu.
Mais là, on peut pas interpréter attendez. Chacun avait son Dieu.
Pas du tout, Prince Shalom.
Non, mais quand il dit.
Au contraire, parce qu'il s'efface. Chéni Kraken, parce qu'il s'est effacé devant Dieu. Comme un char devant lui. Ouftelim et Nichalim Bioro. Et ils étaient effacés et absorbés dans sa lumière. Et c'est ça le chidouche. Vekacha ou Bechol Nefesh Mi'Israël. Il en est exactement de même. Dans chaque âme d'Israël, Bishat et Sekhatora Mitzot. Sachez que chaque fois que vous êtes en train d'accomplir une mitzvah, que vous êtes en train d'étudier la Torah, comme maintenant. Actuellement, on est ici, plusieurs personnes autour d'une table en train d'étudier la Torah. Et bien, chaque seconde qui passe qu'on étudie la Torah, on est en train de s'approprier Dieu exactement comme Abraham, Israël et Jacob.
Mais eux, ils ont plus de mérite.
Non.
Pourquoi ?
Alors oui, bien sûr. Non, si tu veux. On obtient le même résultat, mais eux, c'est un résultat qu'ils ont obtenu par leurs propres efforts.
C'est ça, voilà.
Nous, c'est pas des efforts, nous, on est des clochards. Mais Dieu te dit, il faut quand même juste une clé. Il faut une clé. C'est quoi la clé ? C'est que tu acceptes de faire la mitzvah.
Si alors, une fois que j'ai fait la mitzvah, alors c'est fini, j'arrête.
Oui, mais c'est constant, ça n'arrête
pas.
Ça n'arrête pas.
Il donne la clé, tu ouvres la porte.
Eh oui.
Et t'as pas envie d'ouvrir la porte.
Je donne la clé, ouvre la porte.
Je vais ouvrir avec une mitzvah.
Et d'ailleurs, pour répondre à la question de Michael, les patriarches, ils étaient comme ça, kol yemehem, toute leur vie. Alors que nous, on l'est seulement lorsqu'on accomplit les mitzvot et lorsqu'on étudie la Torah. Donc c'est pas de te dire.
Alors,
c'est difficile de
se. Et il y en a qui vont la mienne, c'est le bas de gamme. Vraiment.
Quand nous citons l'exemple Abraham et
Mais la mienne, elle vaut toutes les autres cartes.
Toi et moi, c'est comme si tu mettais un gendarme derrière chaque Français. C'est exactement la même chose. Nous,
on voit
un gendarme. Non.
C'est ce que tu te dis. Dieu te dit, moi, je te donne la clé. C'est-à-dire que là, ça nous change complètement la façon de voir la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est plus des ordres que tu nous as donnés pour écouter ce qui est dit, pour dire, écoutez ce que je vous ai dit. Non. La Torah et les mitzvot, c'est plutôt une façon de Dieu de te dire, je te donne la possibilité de t'attacher à moi. D'accord? Alors, avec ça, on va expliquer plusieurs choses.
C'est une remarque. Quand on étudie en ce moment la Torah,
oui.
On est au même niveau que Yaakov quand il enseignait la Torah à ses enfants.
On est au même niveau d'attachement avec Dieu. C'est un autre Shabbat. Alors attendez.
Ah, c'est puissant.
Mais la reine, c'est pour cela. Page 331, au milieu de la page. Écoutez bien. Mais la reine, c'est pour cela. Chivu Razal. Non, c'est je suis à page 331, au milieu de la page. Mais la reine, c'est pour cela. Chivu Razal. C'est pour ça que nos maîtres ont obligé la Koum Vela Amod de se lever et de se tenir debout. Mipne Kol Osek Bamitzvah, devant toute personne qui est occupée à accomplir un commandement, Af Imu Bur Vela Maaretz, même si cette personne est ignorante. Alors, on va expliquer un peu. D'abord, ce qu'on appelle ici Bur et Amaaretz, c'est une personne qui est ignorante, c'est-à-dire c'est une personne qui peut être archi-ignorant. Imaginez, je rentre dans un endroit et je vois un ignorant, mais archi-ignorant, en train de mettre les téfilines. Et bien, la Khamu te dit, je dois te lever devant lui. Alors, dans les faits, pas tout le monde se lève devant, parce que bon, on ne peut pas toujours se lever, mais se lever, ça veut dire que je vois un ignorant en train de mettre les téfilines, même s'il est ignorant et comprend rien à ce qu'il fait, et que moi je suis archi-érudit, il ne faut pas se rendre de moi, d'accord? Eh ben, je dois me lever devant lui.
Quand il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce,
quel
est la logique?
Donc on montre à tout le monde qu'il est ignorant, ce type-là.
Non,
pas du tout.
Si on se lève.
Je dis même s'il est ignorant, étant donné qu'il est en train de faire une mitzvah, je me lève devant lui.
Il est debout.
Alors là, je pose la question. Je dis, mais pourquoi je me lève devant lui? Pourquoi je me lève devant lui?
Il mérite pour l'encourager.
Je vais bien me lever devant un rabbin, devant quelqu'un d'important. Mais pourquoi je me lèverai devant un ignorant? Et alors, s'il met les tefilines? Seulement, on comprend. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que chaque fois qu'un juif est en train de faire une mitzvah, il est en train de s'attacher à Dieu comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc lorsque je vois un juif qui est en train de mettre les tefilines, ce juif est en train de rentrer dans l'antichambre de Dieu, il est en train de s'attacher à Dieu, il est en train de véhiculer la shrina, comme on va dire tout de suite, exactement comme Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Pourquoi je dois me lever?
Donc deux secondes, laissez parler. Patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors, de la même façon, lorsque ce juif devant moi est en train de mettre les tefilines, je sais pas devant lui que je me lève. C'est devant ce qu'il représente, devant la shrina. Regardez dans les mots. Velachen, je reprends le paragraphe. Velachen, chivu chazal, laakum velamod, ibne kol osek be mitzvah. C'est la raison pour laquelle nos sages de mémoire bénie ont fait obligation de se lever et de se tenir debout devant quiconque accomplit un commandement. Même si ce dernier, afimu bur veham aretz, même si ce dernier est ignorant. Et comme il dit ici, rustre. Ça veut dire que ça peut être vraiment un archi-ignorant. Pourquoi? Veaynu mipne. Hashem, Ashochen ou Mitlabesh Benafshu Beshaazo. Parce que même cet ignorant, même s'il est ignorant, lorsqu'il est en train d'accomplir une mitzvah, lorsqu'il met les tefilines, lorsqu'il rend visite à un malade, lorsqu'il met une mezouza, toutes les mitzvahs qu'il peut faire, la 613, eh ben, Dieu est en train de résider dans son âme à ce moment-là. Va'inu mipne Hashem ashochen umitlabesh benafsho beshaazo. Dieu réside dans son âme à ce moment-là. Rak seulement. Shen nafsho margeshet. La seule chose, c'est que son âme ne le ressent pas. Et je vais vous donner un exemple concret. La Gemara nous raconte que il y avait une mitzvah qui avait lieu une fois par an, c'est la mitzvah des bikurim.
Les visites.
C'est quoi la mitzvah des bikurim? Non, bikurim avec un chaf. C'est quoi la mitzvah des bikurim avec un kaf? Une fois par an, on devait amener les prémices de nos fruits à Jérusalem. Et c'était en général autour de Shavuot, et c'était une grande procession. C'est-à-dire on faisait avec des paniers, décorés, etc. Et tout. Bon. Tout le monde venait. Et c'était à qui avait le plus beau panier, etc. Bon. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils réalisaient l'importance de la mitzvah qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, c'était aussi un signe de richesse. Quand tu venais avec un beau panier, avec des beaux fruits, ça voulait dire, grâce à Dieu, ça a bien marché pour moi. Et on amenait les prémices à Dieu. Bon, très bien. Maintenant, quand on demandait à une personne lambda qui était là, ignorant, c'était peut-être une personne qui marchait dans les affaires, mais qui était plutôt ignorant, on lui dit, dis-moi, à quoi tu penses quand tu viens à Jérusalem avec ton panier et tes ânes et tes animaux décorés et ornés d'or? À quoi tu penses à ce moment-là? Certainement qu'il pense qu'il vient à Jérusalem, qu'il va en Beth Amikdash, mais je ne sais pas s'il pense vraiment à Dieu. Je ne sais pas. Il pense qu'il est là en train de célébrer sa réussite et de demander à Dieu qu'il réussisse l'année prochaine. Et pourtant, l'Alakha te dit que lorsque les érudits étaient assis, dès qu'ils voyaient la procession des Bikurim qui passait, ils se levaient devant eux. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en train de jouer avec ses élèves. Et dehors, on lui dit, ah, il y a la procession des ignorants qui sont en train de passer, en train de parader, là, avec leur chameau, et avec leur panier en or, en argent, etc. Et ben, tout le monde se levait. Ils arrêtent l'étude. Ils se lèvent. Pourquoi tu te lèves? Qu'est-ce que tu te lèves? Tu te lèves devant qui?
Devant Hachem, moi.
Tu te lèves devant quelqu'un qui est en train de parader, tu te lèves devant ça? C'est la réponse de l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken te dit, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change ce que le juif il pense quand il fait la mitzvah? Moi je lis ce qui se passe dans les coulisses. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est que ce juif qui est en train d'amener un panier à Dieu, il est en train de faire une mitzvah et il véhicule la shrina. Donc tu te lèves devant lui. Tu te lèves devant lui. Parce qu'il véhicule la shrina. Ah, maintenant peut-être ce juif il a pas en tête la shrina. Peut-être lui il pense à autre chose. Il pense à se pavaner. C'est pas des affaires.
Et celui qui
il est en train de faire une mitzvah. C'est la même façon. Tu vas aller par exemple dans un gala. Je crois je vais moderniser un peu l'exemple. Tu vas aller dans un gala. T'as des gens qui vont donner la tzedaka discrètement. Tu envoies par SMS, etc. Bon, ou bien ils envoient, ou bien ils vont annoncer, mais ils en font pas. T'as des gens que pour eux c'est la parade. Ils sont là pour eux c'est un symbole de réussite. De venir à un gala et d'annoncer des chiffres, etc. Et qu'à la limite, ils ont peut-être oublié pourquoi ils sont là. Ils sont là pour supporter une cause, pour aider une cause, pour apporter leur support à une cause qui est importante. Ils ont peut-être oublié la cause. Ils disent peu importe la cause, ce qui compte, c'est que c'est moi qui ai donné. Et alors? On te dit, finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas le top. Normalement, ça devrait pas être comme ça. Mais finalement, ce juif qui est en train de faire une mitzvah, même s'il ne comprend pas l'ampleur de la mitzvah qu'il fait, au moment où il est en train de faire la mitzvah, il est en train de véhiculer la shrina. Tu te lèves devant lui. Tu te lèves pas devant le monsieur. Tu te lèves devant la shrina qui est en lui au moment où il fait la mitzvah, même s'il n'est pas conscient de la mitzvah qu'il est en train d'accomplir. C'est le chidouch. Pourquoi? Parce que dès que tu fais une mitzvah, tu t'attaches à Dieu, et tu véhicules Dieu, et tu t'appropries Dieu, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même si tu es inconscient de ce que tu fais. Même si tu le fais pour une autre raison. Tu le fais pour te pavaner ou tout ce que tu veux. Tu véhicules Dieu comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sauf que comme on a dit, son âme, parfois, ne ressent pas. Pourquoi maintenant ne ressent pas? On va dire, ah non, c'est pas sérieux ce que tu dis, Mendy. Dans ce cas-là, comment ça se fait que, voilà, cet ignorant qui est là, tu es en train de me dire que même s'il est là à se pavaner avec ses paniers, tu me dis que son âme est en train de véhiculer, comme il fait une mitzvah, parce qu'apporter les bikurim à Dieu, c'est une mitzvah. Tu es en train de me dire que, étant donné qu'il fait une mitzvah, son âme est en train de véhiculer la shrina. Ah, pourquoi il le ressent pas? Pourquoi on ressent pas? C'est la question. Pourquoi un tzaddik il ressent et lui il ressent pas? C'est pourquoi le tzaddik il va se lever devant ce que cette personne véhicule? Je vous parle celui qui est là-bas, là, l'ignorant, d'accord? Pourquoi le tzaddik va se lever devant ce que cette personne véhicule, mais que l'auteur lui-même, ça veut dire la personne en question, celle qui véhicule la shrina, lui ne ressent pas. Il ne ressent rien. Pourquoi? La réponse est très simple. On tourne la page. Mipne, Massach, Achomer, Agoufani. C'est à cause, et les mots sont forts,
du rideau constitué par la matérialité corporelle chez l'onis d'arrière qui n'a pas été raffiné. C'est-à-dire qu'avec le temps, tellement on sombre dans la matérialité et dans les plaisirs de ce monde, que on forme une forme de rideau. De rideau de fer. Qui nous empêche en fait de ressentir ce qui se passe. Maintenant, les choses continuent à tourner. Ça veut dire que lorsque je fais une mitzvah, je continue à véhiculer la Shrina. Mais avec le temps, je me suis fait un voile qui fait en sorte que je ne vois plus ce qui se passe.
Exactement.
Ou marchir est né à Nefesh et qui obscurcit les yeux de l'âme. Mirot, marot Elohim, de voir les visions divines. C'est des mots très forts ce qu'il dit ici. C'est-à-dire de là on apprend que de la même façon que le corps a des yeux, l'âme a des yeux.
Magnifique.
L'âme voit des choses et devrait voir des choses. Lorsque je fais une mitzvah, mon âme devrait ressentir l'ampleur, la puissance du moment. Seulement, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'avec toutes les fautes, et pas seulement les fautes, toute la matérialité qu'on a fait, ça fait en sorte qu'avec le temps, il y a un voile qui se fait. Et ce voile, alors au début, c'est un petit voile. Après, c'est comme un nuage. Au début, t'as un petit nuage. Après, tu rajoutes un nuage, un petit sur un petit. À la fin, t'as un nuage épais. Et à la fin, on voit plus rien. À la fin,
c'est
il fait noir.
C'est Sarah qui nous fait ça.
À la fin, il fait noir. Tu dis, je vois plus rien. Maintenant, est-ce que parce que je ne vois pas la lumière du soleil derrière les nuages, ça veut dire que le soleil a arrêté d'éclairer?
Non.
Le soleil continue toujours à éclairer. Seulement, tu ne le vois plus. Mais il est là. De la même façon, lorsque je fais une mitzvah, Dieu continue à m'envoyer son soleil. Et ce soleil m'atteint. Ce soleil arrive en moi. C'est la raison pour laquelle je véhicule cette kiddusha quand je fais une mitzvah. Et il faut se lever devant moi quand je fais cette mitzvah. Le problème, c'est que moi, je le ressens pas. Pourquoi je le ressens pas? Parce que, avec tous ces voiles que j'ai mis, je n'arrive plus à ressentir. Vous savez, on dit comme ça. On dit que le corps et l'âme, c'est un peu comme une balance. C'est-à-dire, quand tu t'investis trop dans la matérialité, automatiquement, la spiritualité prend un coup. Quand tu t'investis plus dans la spiritualité, automatiquement, la matérialité s'élève. Ça va de pair. Tu peux pas dire, il y a ma vie matérielle, il y a ma vie spirituelle. Il y a mes vacances, c'est mon juillet-août, et le reste de l'année, il y a ma prière de telle heure à telle heure, de 8h à 10h, d'accord? Et le reste de la journée. C'est pas possible de faire ça. Tu peux pas faire ça. Un juif, c'est-à-dire chaque faute que je fais, chaque bêtise que je fais, chaque matérialité que je fais, ça crée un voile. Mais c'est pas parce qu'il y a un voile que les choses ne se passent pas. Ça continue à se passer. La Shrina continue à illuminer mon âme lorsque je fais une mitzvah, même si je le sens pas. Elle continue à illuminer mon âme. Et c'est le tzaddik qui le voit. Le tzaddik qui dit, regarde, j'ai fait une mitzvah. C'est pour ça que le tzaddik se lève devant toi. Toi, tu dis, mais pourquoi il se lève devant moi? Je suis en train de pavaner. Je suis en train d'apporter un panier en or. Tzaddik, toi, tu crois que tu apportes un panier en or. Ce que tu sais pas, c'est que maintenant, t'as la Shrina qui est en train de tourner autour de toi, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sauf que tu ne le vois pas. Malheureusement, tu ne le vois pas parce qu'avec le temps, ce voile t'a caché et t'es pas. Et donc, je termine avec ça, hein. D'accord, on va continuer. Kemo a avod ve kayotse ba'em, exactement au même niveau que les patriarches et leurs pères, c'est-à-dire les tzadikim de leur niveau, shira'u olamam bechayem, qui ont vu leur monde, le monde futur, de leur vivant. Ça veut dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que c'est quoi le monde futur finalement? Quel est le but du monde futur? Le but, non, mais plus que ça, le but du monde futur c'est quoi? C'est s'attacher avec Dieu. Lorsque je fais une mitzvah, je m'attache avec Dieu. Donc en vérité, le monde futur, je l'ai déjà ici. Seulement la seule différence, c'est que ici, je vois rien.
Ah oui.
Je ne vois pas ce qui se passe. Et après 120 ans, on va me montrer ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le monde futur, c'est maintenant qui se passe. Quand je fais une mitzvah, je suis en train de m'attacher à Dieu, sauf que je ne le vois pas. La force d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et de leur père, c'est que leur père avec, comme, c'est-à-dire ceux qui ressemblent à eux, c'est que eux, de leur vivant, ils voient à quel point ils s'attachent à Dieu. Ça, nous, on n'arrive pas à le voir. Mais ça se passe quand même. En effet, c'est ce qui se passe. Oui. Donc en fait, c'est juste une question de prise de conscience, de réaliser que lorsque je fais une mitzvah, en fait, je suis en train de rentrer dans le palais du roi. Alors, même si je reste clochard, et que je suis dans mon esprit de clochard, et que dans ma tête, je reste clochard même dans le palais du roi, on dit, bon, tu peux rester clochard, peut-être que comme t'es un clochard, t'as pas réalisé que t'es dans le palais du roi. Mais sache que quand tu fais une mitzvah, t'es dans le palais du roi. Et le roi t'a pris dans sa chambre. Dans la chambre où il fait rentrer personne. Et tu véhicules la Shrina. C'est tout. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu fais. Combien d'histoires on a avec des gens comme ça qui mettent les tefilines et qui changent complètement leur vie? Pourtant, il dit, franchement, honnêtement, c'est quoi les tefilines? Une lanière, parchemin,
Le même le boîtier. C'est fait de. Non, mais attendez, c'est fait de peau d'animal.
C'est vrai.
On aurait pu faire un truc sympa en or, je sais pas, un truc. Un design, diamant, etc.
C'est cher.
On est parti chercher un peu l'animal. Alors, c'est vrai qu'on. Alors, en plus, on le fait même pas. On aurait pu mettre un peu de couleur, tu vois. Un peu de blanc, un peu de rouge, un peu de jaune, un peu, je sais pas.
Chacun est fait
black. C'est vrai que le noir, c'est un peu à la mode aujourd'hui, mais en vérité, c'est le noir, c'est justement l'absence de couleur. Parce que même le blanc, c'est la clarté. Ça veut dire que les tefilines, ils ont rien pour eux. Il n'y a rien pour eux. C'est exactement ce qu'on te dit. On te dit, même si tu ne vois pas ce qui se passe, lorsque tu mets les tefilines, tu es en train de véhiculer le nom d'Hachem. Autant que Rabbi Shimon Bar Yochai, autant qu'Abraham, autant qu'Yitzhak, autant qu'Yaakov, autant que le Rabbi, autant que Baba Salé, autant que le Rachaim Akadosh, autant que tous les grands tzadikim. Tu véhicules Dieu comme eux. Sauf que quelle est la différence entre la mitzvah d'un tzadik et ma mitzvah? C'est que le tzadik comprend ce qu'il fait, moi je ne comprends pas ce que je fais.
Il le ressent.
Il le comprend, il le ressent. Moi je ne comprends pas, je ne ressens pas. Mais dans l'absolu, c'est la même chose. C'est énorme. Donc là, quand tu dis ça, tu dis, mais quelle chance Dieu m'a donné. Normalement, quelqu'un normalement qui veut accélérer des choses comme ça, de faire des grandes études, d'avoir des grandes études, de se préparer, etc. Et à la fin, mais il y a les B.A.R. Hachem, qui montera dans le monde de Dieu. Là, on te dit, tu veux t'attacher à Dieu, tu n'as besoin de faire aucune étude. Tu n'as pas besoin de passer par 15 ans d'yeshiva. Tu prends une mitzvah, en 5 secondes, tu es attaché à Dieu. C'est tout. Ah, tu ne te sens pas? Bon, c'est un problème, tu ne te sens pas, parce que ton corps ne te laisse pas sentir ça. Mais c'est ce qui se passe. Quand on entend ça, on comprend à quel point c'est des choses qui sont extraordinaires. Je vais raconter une histoire pour illustrer ça, après les questions. On raconte que les chassidim racontent un exemple. Ils disent, pour illustrer le fait que même si je ne me rends pas compte de ce qui se passe, ça ne change pas que les choses se passent. Je donne un exemple. Prenez, par exemple, une charrette. Dans cette charrette, c'est un exemple que donnent les chassidim. Dans cette charrette, il y a des chassidim qui sont en route pour aller chez le rabbi. Ok ? Dans cette charrette est conduite par un cocher. Et ce cocher est en train de fouetter, de tirer des chevaux. Donc on a ici des chevaux, un cocher, une charrette, des chassidim. Maintenant, si on pose la question à chacun de ces quatre éléments, enfin, on va prendre trois éléments. On va poser la question au cheval. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu cours? Le cheval, il sait pas ce qu'on lui veut. Il dit, moi, j'étais bien ou j'étais? Seulement, on lui met une carotte. Vous savez comment fait avancer un cheval? On lui met une carotte devant lui. Oui. D'accord? Et quand on lui met une carotte devant lui, il croit toujours qu'il va vers la carotte, donc il avance, il comprend pas en vérité. Donc, il se dit, je vais aller dans un endroit, peut-être là-bas, ils vont me donner du meilleur foin. Donc, le cheval, il pense pas qu'il est en train d'accompagner des chassidim chez le rabbi. Et moi, volontairement, j'appelle une voiture, parce qu'une voiture n'a pas de volonté propre. Alors qu'un cheval, il a quand même, c'est une créature qui a une volonté, etc. Donc, le cheval, tu lui poses la question, on lui poserait la question. On lui dit, mais où tu vas? Je vais chercher du meilleur foin. Et j'ai pas le choix, on va donner des coups, j'avance, je cherche du meilleur foin. Là, tu vas poser la question au cocher. Tu lui dis, toi, pourquoi t'es en train d'aller? Où tu vas? Le cocher va répondre, il va dire, moi, je suis là pour gagner des sous. Moi, si je pouvais gagner ces sous en restant chez moi, j'aurais fait. J'ai rien, moi, j'ai pas envie de faire chauffeur d'Uber tourner toute la journée, ça m'intéresse pas. Seulement, comme il faut gagner des sous, je le fais. Donc, moi, mon but, c'est pas de conduire monsieur un tel de là à là, c'est pas mon but. Mon but, c'est de gagner des sous. Donc, pour gagner des sous, je vais l'amener là-bas. Maintenant, tu vas poser la question à celui qui est dans la calèche, celui qui est dans la voiture. Tu vas dire, et toi? C'est moi. Là, je suis du point A au point B, je vais aller rencontrer ma bien-aimée. Je vais rencontrer ma fiancée, je vais rencontrer mon rabbi, je vais rencontrer, etc. Donc on a trois choses ici. Tu as un cheval qui cherche qu'à manger. Tu as un cocher qui cherche qu'à être payé.
À manger aussi.
Et tu as à manger aussi. Et tu as celui qui est dans la calèche, qui lui a une autre dimension complètement différente de ce qui se passe. Et il est en train d'aller du point A au point B, pas pour gagner des sous, parce qu'il veut être, il veut arriver au point B. Maintenant, est-ce que ça c'est l'exemple. Est-ce que parce que le cheval ne comprend pas l'ampleur et l'importance de son événement. Est-ce que pourtant le cheval ne va pas amener à destination? Il va amener à destination. Non, même s'il est à côté de la plaque, il va amener à destination. Est-ce que parce que le cocher ne comprend pas l'importance pour moi d'arriver au point B, il m'amènera pas au point B? Il va amener au point B. Qui a vraiment compris ce qui se passe? Celui qui est le passager. Lui comprend vraiment ce qui se passe, où on va. Mais c'est pas parce que les autres n'ont pas compris ce qui se passe qu'ils ne sont pas partis. C'est ça un exemple qu'on va amener. De la même façon, on dit, quand les chassidim veut donner cet exemple pour expliquer, c'est la même chose quand je fais une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je mets les tefilines. Le tzaddik, c'est comme le passager. Lui, il comprend ce qui se passe. Il dit, je sais exactement ce qui se passe. Quand je mets les tefilines, je viens de là et je vais là. Voilà où j'arrive. Et voilà ce qui se passe. Décolle. Maintenant, il y a des autres. Il y a le cocher, des gens comme nous qui disent, bon, j'ai mis les tefilines, je fais pas attention. Mais même si je réalise pas ce que je fais, est-ce que pour autant le cocher n'est pas arrivé à destination? Il est arrivé à destination. Tout le monde est arrivé à destination. Le cheval, le cocher, le passager. Même si il n'y en a que un sur les trois qui a compris ce qui se passait, mais les trois sont arrivés à destination. La chose s'est faite pour les trois. Les trois sont arrivés à destination et la chose s'est accomplie pour les trois. Ben, de la même façon, il y a des gens qui sont à côté de la plaque. Et alors? Même si un juif est à côté de la plaque, il comprend pas ce qui se passe. Il croit qu'il va mettre les filines pour impressionner quelqu'un. Il croit qu'il va amener le panier de bikourim pour impressionner, pour se pavaner. Et alors? Que ça change? Même s'il se comporte comme un cheval. Il dit, j'amène le panier pour me pavaner. Concrètement, est-ce qu'il est allé à Jérusalem ou il est pas allé à Jérusalem? Il est allé. Il a fait la mitzvah ou il a pas fait la mitzvah? Il a fait la mitzvah. Alors c'est un cheval. Bon, c'est un cheval. Faut se travailler pour devenir passager. Pour comprendre ce qui se passe. Mais il est allé à Jérusalem. Quand il arrivera après 120 ans, on ne pourra pas lui dire que tu n'étais pas à Jérusalem. On ne pourra pas lui dire que tu n'as pas mis les ah oui, non mais, c'est mais il est parti.
Oui.
Il a mis les tefilines ou pas mis les tefilines? Même s'il n'a pas compris l'importance, l'ampleur de mettre les tefilines. Il a pris, il a les amis parce que bon, il a pris sur lui, il a pris en deux minutes. Et alors? Il a mis ou il n'a pas mis?
La seule différence avec le passager, c'est que le cheval, une fois qu'il est arrivé au point B, il va se barrer.
Oui, mais le cheval, il y aura un point C après. Ça ne s'arrête pas. Tu comprends? Ça veut dire que ce que je vous montrais par ici, c'est que pour la même situation donnée, on arrive tous au même endroit, et pourtant chacun pense autre chose. Et ça, c'est un exemple aussi que tu peux amener pour tout. Ça veut dire, on amène aussi l'exemple avec les... Alors, ça veut dire, de la même façon. Alors, le rabbi, il avait donné l'exemple comme ça. Il avait l'exemple comme ça. Que, il dit, est-ce que parce que le cheval est un cheval, l'ange n'est pas un ange, l'ange est le symbole de celui qui est dans la calèche, celui qui comprend le passager. Ça veut dire, est-ce que parce que le cheval est un chmar, c'est pour cela que les autres sont des chmar? Non. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Seulement, il y en a un qui a compris ce qui se passe, il y en a un qui n'a pas compris ce qui se passe. Mais ça fonctionne. Ça, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple pour expliquer comment ça fonctionne. Pour expliquer que quand tu fais une mitzvah, tu t'accroches à Dieu. Compris et pas compris, ça ne change pas, ça s'est passé. C'est tout. Avec ça, on va comprendre. Je crois qu'il y avait une question. Il y avait une question, je crois.
Oui, oui, qu'on ressent pas les choses, mais Dieu, je crois que c'est retranché aussi. Il s'est voilé. Il a fait exprès.
Attendez. Dieu, il s'est voilé, mais il nous a donné des yeux.
Oui, on voit que du matériel avec nous.
C'est faux. On vient de dire. Il y a les yeux du corps, il y a les yeux de l'âme.
Oui, bon, les yeux de l'âme, ils peuvent percevoir rien.
Vous savez, des fois, moi, je l'ai vu chez des enfants. Des fois, les enfants, ils perçoivent des choses que nous, les adultes, on est incapables de voir.
C'est un sixième sens. On peut sentir.
C'est pas un sixième sens.
On peut ressentir des choses.
C'est qu'un enfant, comme il est pur, il arrive à voir des choses que moi, j'arrive pas à voir. Parce que je n'ai pas. C'est même pas ça. C'est plus que ça. C'est parce que avec le temps, on s'encrasse tellement qu'on perd une certaine pureté, qu'on a une innocence, et ça fait en sorte qu'on ne capte plus certains signaux.
Je comprends ce que je veux dire. On peut ressentir.
Non mais vous. Il n'est pas parasité, donc il capte tout. Il capte tout. C'est comme capter des ondes. Ça veut dire quand tu es parasité, quand t'es parasité, tu n'arrives plus rien à capter. Vous savez, imaginez quand tu captes un signal radio, tu vois. Voilà. Alors, nous, quand t'as un signal qui est net, pac, tu captes. Ouais. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que des fois, t'as plein de parasites. Alors, tu captes le signal, mais en même temps, t'entends plein de parasites autour. Ouais. Est-ce que pourtant t'as pas capté? T'as capté. Tu as capté, mais t'as capté d'autres choses qui t'ont embrouillé, qui t'ont fait croire que t'as pas capté. Mais t'as capté.
Je joue pas sur les mots,
c'est très sérieux.
Quand je dis le verbe voir,
oui.
Je vois que c'est jaune, je vois que c'est noir, rouge. Là, vous parlez de ressenti, de sensation.
Est-ce que
c'est pas de la vision, c'est sûr, des sensations.
Mon âme peut ressentir.
Ressentir, mais pas voir. Je vois pas des anges.
Oui, mais voir, évidemment. Je vois avec ma tête. C'est comme quelqu'un m'explique quelque chose, je lui dis je vois. C'est-à-dire je vois,
j'entends. J'ai compris.
Ça veut dire j'arrive à m'imaginer. C'est ce qu'on te dit.
Non, enfin, la vision de l'âme, on l'a pas ou on l'a plus, mais le ressenti, c'est le corps des fois qui ressent les
alors,
choses.
Alors, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que dans l'absolu, la vision de l'âme, on l'a. Seulement, tellement on est devenu matérialiste qu'on n'arrive plus à capter, notre âme n'arrive plus à capter certaines choses. Parce que devant elle, on a mis un mur. C'est comme vous avez un récepteur radio, mais devant lui, vous avez mis un mur en béton. Qu'est-ce que le meilleur récepteur, il peut pas capter, il n'arrive pas à capter.
C'est ça.
Mais ça ne change pas. que les signaux sont émis.
C'est tout. C'est que les seules fois où tu peux être en contact avec, comme tu dis, les yeux de l'âme, c'est quand tu as une émotion.
C'est le corps qui...
Non, on ne sait pas d'où ça vient. Mais tu vois quelqu'un et tu as une émotion, tout à coup, il y a quelque chose qui se produit. Oui. C'est inexplicable. Quoi.
Des fois, tu vois une personne qui te déplace le sang, ou une personne qui va t'impressionner, tu ne sais pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi, oui. Mais en général, plus on devient adulte, et plus notre âme s'endurcit et floutée et cachée, quoi. D'accord, obscurcie. Bon. Avec ça, on va comprendre un psaume, le psaume 73. Le psaume 73, qui a été dit par Asaph. Asaph est un de... Vous savez que le roi David a principalement compilé les Tehillim. Il les a pas écrits, d'accord. Il les a compilés, c'est-à-dire qu'il a repris différents cantiques. Et donc, un des cantiques, il a repris de Asaph. Asaph, d'accord. Et Asaph dit la chose suivante, regardez. On va prendre la page 332. On en bas de la page. Vezehu Shamar Asaph Beruach HaKodesh. Voilà pourquoi Asaph, donc Asaph, c'est celui qui dit le cantique numéro 73, que le roi David a répété dans 73. Beruach HaKodesh, par inspiration divine, Be'ad Kol Knesset Yisrael Shebagola. Regardez bien. Le psaume 73 parle de nous, parle des juifs qui sont exilés. Et regardez comment il nous décrit. Il dit, Va'ani Ba'ar, et moi, je suis un sot, donc un imbécile. Velo Eda, ne sachant rien. Behemot Haiti Imar, j'étais comme des animaux avec toi. Va'ani Tamit Imar, et pourtant, je suis continuellement avec toi. Très fort comme verset, mais avec l'exemple qu'on a donné, on comprend parfaitement. Vous suivez le verset? Il dit, je suis un imbécile qui ne comprend rien. Je suis comme un animal, c'est au pluriel, comme les animaux avec toi. Et pourtant, je suis continuellement avec toi. Quel Omar, ça veut dire? Exactement comme l'exemple qu'on a cité. Ah, Falpi, bien que... que je sois comme un animal quand je suis avec toi, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends rien du tout à la musique que je fais. À l'époque du Beth Amikdash, on captait. Tu venais au Beth Amikdash, tu sentais la Shrina. Nous, de nos jours, est-ce qu'on arrive à capter des choses? On capte rien. On est comme un animal. Qu'est-ce qui capte un animal de ce qu'un homme fait? Imaginez maintenant qu'on est en train de discuter, voilà, je suis en train de faire un cours, imaginez qu'il y a un chien qui passe. Qu'est-ce qu'il va capter de notre cours? Il va entendre des sons. Il va entendre des sons, peut-être il va capter un peu d'émotion. Peut-être, ça s'arrête là. Il n'a rien capté. Il n'a rien sentir du tout. Ça veut dire que toute la finesse qu'on est en train d'expliquer va passer à côté. C'est ce que dit Asaph. Asaph, il dit, lorsqu'on est en exil, on est comme les animaux avec Dieu. On est comme les animaux, ça veut dire qu'on fait une mitzvah, mais on capte rien. On capte rien de ce qui se passe. Exactement comme un animal ne capte rien. Une discussion d'être humain, il capte rien. Ça veut dire quoi? Velo eda, velo argish. Être comme un animal, ça veut dire que je ne sens pas. Je ne sais pas, je ne ressens pas, pour reprendre ce que vous avez dit, benafshi dans mon âme, irudze, cette union. Je ne sens pas, je vois pas dans mon âme comment je suis en train de m'unir avec Dieu, en exil, quand je fais une mitzvah. Shitipol alav matavafachatrila, au point que j'aurais ressenti. Parce que si je sentais que quand je fais une mitzvah, la shrina est sur moi, j'aurais tremblé. J'imagine, Dieu est avec moi, Dieu est en moi, j'aurais tremblé. Et après, Avaraba, comme l'exemple du clochard, après j'aurais senti un amour profond. Mais t'as un nougim, un immense amour. Orkirishvesh, un amour dans les délices, un amour comme le charbon, etc. Kemidat et tzadikim, comme le tzadikim, shinizdaker chumram, que leur matérialité a été raffinée. Vekanoda, comme c'est connu. Shedaat ou lashon argasha benefesh, vous kolel chesedogvura. Comme il est connu, que daat, bonsoir, c'est quoi daat? C'est le fait de comprendre, de ressentir. Et donc, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit le roi David dans l'option 73, au nom de Asaph? Il dit, Va'ani Va'ar, moi je suis imbécile, Veloïda, et je ne connais pas, et je ne ressens pas. Et pas seulement ça, pas seulement que je ne comprends pas, mais je suis un être humain. En vérité, Behemoth Haïti Imar, face à toi Dieu, face à ce qui se passe dans les coulisses, je suis comme un animal qui capte rien. Et pourtant, Afal Piken quand même, Anita Midimar, je suis toujours avec toi. Ça veut dire, c'est pas parce que je comprends pas ce qui se passe que je ne suis pas avec toi. Ça, c'est un verset énorme, ça. En fait, ce verset résume tout notre cours. Psaume 73. Je suis un animal,
Je suis comme un cheval, je suis comme un cheval, je comprends rien du tout ce qui se passe. Et pourtant, je suis tout le temps avec toi. Afal Piken, quand même, Ani, Tamid, Imar, je suis toujours avec toi, Kadosh Baruch Hu. Qui en a chomer, monéa, ichoud, anéfesh, barotse, bromé, kolomine. Et là, c'est très important. Regardez, si on prenait l'exemple de tout à l'heure, imaginez que Joseph est là. Voilà, Joseph, vous êtes là devant moi, vous me regardez. Voilà. Imaginez que j'ai envie de m'attacher avec, à Joseph et que devant Joseph et moi, on met un mur en béton. Dans ce cas-là, ni je peux communiquer avec Joseph, ni je peux m'unir avec Joseph. On est bloqué. Ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. On est bloqué. Là, ce qui est intéressant, c'est que même si je mets un mur devant moi à Kadosh Baruch Hu, avec la matérialité que je fais, c'est-à-dire avec une matérialité que je ne ressens pas.
Ça passe quand même.
Mais ça passe quand même. La seule différence, c'est est-ce que je ressens ou je ne ressens pas. Mais le signal de Dieu, il capte tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mon âme, elle capte tout le temps le signal de Dieu. Seulement, si tu mets un voile dans ton âme, ce qui va se passer, c'est que ton âme va toujours capter le signal, mais qu'elle ne le ressent plus.
Elle
n'arrive pas à le ressentir, mais elle le capte toujours, ce qu'il dit ici. C'est ça ce qu'il te dit le 73. Et tu dis, ne crois pas que tu es devenu comme un animal, donc tu es un animal, donc tu captes plus rien. Non, tu captes toujours, tu es toujours avec Dieu, mais tu comprends pas, comme un animal. Mais tu captes toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, à partir du don de la Torah, il n'y a plus rien qui peut séparer un juif. On te demande juste une chose, donc, fais la mitzvah.
Racha ou tzadik,
hein? Exactement.
Racha ou tzadik, ou todavar.
Comme il a fait Gad Elmaleh, là, quand il a fait le sketch. Il fait le sketch, sur, il répétait Rav Raskin au Maroc. Et il raconte comment une fois il a fait le comique. Il était dans une colonie de vacances que Rav Raskin organisait, à la Vache à l'Homme. Et il avait une quinzaine d'années apparemment. Et à un moment, il ne savait pas que Rav Raskin était rentré dans la salle. Et donc lui, il faisait le comique, il était en train d'imiter Rav Raskin devant tous les colons. Et à un moment, Rav Raskin rentre, tout le monde se tait, mais lui, il ne voit pas. Et Rav Raskin, il arrive. Et lui, il est là, et tu vois, il fait malin, etc. Alors je ne rappelle pas la réplique exacte, mais le Rav Raskin, il me l'a dit comme ça. Il a dit, tu veux faire le comique? Fais le comique, mais fais les mitzvot. Ça l'a marqué, il a répété il n'y a pas longtemps. Je veux dire quoi? C'est ça ce que vous dites. C'est-à-dire, on dit, fais le comique, pas de problème. Fais le comique. Ça change quoi? Fais les mitzvot.
Avec mitzvot.
De même façon, quand tu vas voir un juif, tu vas lui dire, viens, on met les tefillines, etc. Tu vas lui inventer un truc, tu vas lui dire, viens, fais ça pour moi, c'est mon anniversaire, c'est mon truc. Pas inventé, c'est la vérité, mais moi, je ne sais pas s'il l'a fait pour Dieu. Il l'a fait pour autre chose.
Ouais.
Moi, des fois, j'ai des gens, des fois, je leur propose de mettre les tefillines, ils sont avec leur femme ou avec leur copine, c'est le meilleur ça. Et il ne veut pas les mettre. Et sa copine lui dit, mets-les. Il n'ose pas ne pas les mettre. Donc il va les mettre.
Après, il les met.
Pourquoi il les a mises?
Pour elle.
Parce qu'il était gêné. Pour lui
faire plaisir.
Hein? Pour lui faire plaisir.
Non, pour pas avoir d'envie.
Hein, parce qu'il était gêné. Il était gêné. Il était gêné. Ou bien des fois, ça c'est le pire. Des fois, je propose de mettre les tefillines et il me dit, j'ai déjà mis. Et t'as sa copine ou sa femme qui est à côté, il dit non, c'est faux, il les a pas mises.
Ah ouais. Voilà, c'est dur.
Et il appelle le choix, il rougit, mais il aimait. Pourquoi il aimait? Il les a mis pour Dieu à ce moment-là? On dit, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pourquoi il les a mises? Dès qu'il les a mises, il s'est connecté avec Dieu. T'as branché la prise. Maintenant, même si autour de la prise, t'as mis un protecteur qui a fait que tu te rends pas compte qu'il y a du courant, que ça brûle, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que tu comprends ou que tu comprends pas? T'as branché la prise. T'as le signal, le courant est passé. T'as mis les tefillines, le courant est passé, c'est tout. Tu veux faire le comique? Fais le comique. Fais les mitzvot. Branche la prise. Une fois que t'as branché la prise, après ça ne nous regarde pas. Est-ce que t'as compris ce qui se passe? Est-ce que t'as pas compris? Est-ce que ton fil est couvert au point qu'on ne capte plus rien? C'est autre chose. Là, c'est un autre problème. Le ressenti ou pas le ressenti? Mais tu t'es attaché avec Dieu. Et ça, c'est comment Asaph résume ça en une ligne dans le psaume 73. Alors, on va terminer avec ça, le chapitre 45. Alors, il dit, qui en a chomer monéa, je suis à la page 334, qui en a chomer monéa ichud anefesh be'or ensof ochav emele kol almin. Même la matérialité la plus profonde, même un mur de matérialité, ne pourra jamais empêcher mon âme à s'unir avec Dieu.
C'est ça le béton armé, c'est ça le
mur. Exactement. Rien pour un. Ça peut m'empêcher de le ressentir, mais pas de s'unir avec Dieu. Parce que Dieu, à Mémalek, il emplit tous les mondes. Donc, moi, chez Katouv, comme il est écrit dans le psaume 139, c'est intéressant comment le roi David illustre avec quelques mots
des idées très profondes. Regardez le psaume 139. Gam Rocher, le Yachashir Mimeka. Il dit comme ça. Il dit, même les ténèbres ne feront pas obscurité pour toi. C'est un peu un paradoxe, parce que si tu les appelles ténèbres, oui, c'est qu'ils forment l'obscurité. Oui, alors si tu dis qu'ils sont ténèbres, alors comment tu dis qu'ils ne font pas obscurité devant toi? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des ténèbres, tu ne sens pas que tu captes Dieu, mais dans l'absolu, il n'y a pas d'obscurité, parce que ton âme a capté Dieu. Seulement, tu n'as pas compris. Ça veut dire, si vous voulez, c'est un ressenti d'obscurité, sans que ce soit une obscurité réelle. En vérité, ton échama capte toujours un kadosh baruch hu. Ça, c'est à partir du don de la Torah. La nouveauté du... Avant le don de la Torah, tu voulais capter Dieu, il fallait faire un effort toute ta vie. Tu bosses. Et à la fin, tu arrives comme Abraham, tu dis, c'est bon, c'est mon Dieu. Mais le vrai chidouche au don de la Torah, c'est que Dieu a dit maintenant, il nous a pris clochard comme on est, il nous fait rentrer dans son palais, il te dit, t'as besoin de rien faire. Juste tu fais la mitzvah, c'est tout. Tu mets les tefillines, 5 minutes, 1 minute. T'as mis les tefillines, t'as mis la prise. T'es branché avec moi. T'as pas ressenti sinon un autre problème, mais t'as branché le risque. Énorme. Au basé, Yuvan, avec ça on va comprendre. Page 335. Romer, Onesh, Issur, Melacha, Beshabbatot, Vechametz, Vepesach. Avec ce qu'on a expliqué, on va comprendre la gravité de la punition pour celui qui transgresse l'interdit de faire un travail le Shabbat. D'ailleurs, c'est la paracha cette semaine, le début, ouais, de la paracha, paracha Vayakhel. Vechametz, Vepesach, ou la gravité de celui qui va consommer du Chametz, Vepesach. Achavé l'échol nefesh, qui est identique pour tout le monde. Ça veut dire que, qu'on soit ignorant ou qu'on soit savant, celui qui mange du Chametz Pessah, c'est grave pour tout le monde. Qu'on soit ignorant ou qu'on soit savant, celui qui travaille le Shabbat, c'est à soi pour tout le monde. Seulement, il y a un problème. Comment tu peux mettre la même punition pour tout le monde? Le tzaddik, lui, il sent la lumière du Shabbat. Donc lui, quand il transgresse le Shabbat, c'est très très grave, parce qu'il sent la lumière du Shabbat. Mais l'ignorant, il ressent pas le lien du Shabbat. Donc finalement, pour lui, comme il ressent rien, il a pas capté la gravité de ce qu'il a fait. Donc du coup, il a dit, bon, bah, je ressens rien, il est parti travailler, il a rien ressenti. Pourquoi tu dis que c'est aussi grave, c'est pas moins grave, parce que tu ressens pas? Et finalement, il est ignorant, il ressent rien. Ça m'en a la réponse. On te dit, qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que tu es ignorant que la lumière du Shabbat éclaire moins en toi. La lumière du Shabbat éclaire aussi fort en toi. La seule question, c'est est-ce que le Shabbat, t'as ressenti la lumière du Shabbat, ou est-ce que tu n'as pas ressenti?
Donc il rejoint ce qu'on a dit.
Exactement, il rejoint ce qu'on a dit. Ça veut dire que le Shabbat, que tu sois Rabbi Shimon Bar Yochai, ou que tu sois Korar, ou que tu sois n'importe qui, ou que tu sois un Racha, la lumière du Shabbat est claire en toi. Donc c'est pour ça que transgresser le Shabbat, c'est aussi grave pour tout le monde. Parce que tu es en train d'empêcher le Shabbat de faire entrer sa lumière. Tu dis, ah mais moi je ne l'ai pas ressenti. Ça c'est un autre problème, tu n'as pas ressenti. Mais le Shabbat rentre en toi. Alors regardez, il va expliquer, regardez. Il dit, le fiche av ben nefesh bour ve'amaretz gamour. Car même dans l'âme d'un ignorant absolu, qui comprend rien à ce qui se passe, chmar, meir or dushal shabbat v'yom tov, même en lui, lorsqu'il accomplit le shabbat et l'yom tov, d'abord c'est même pas lorsqu'il accomplit, le shabbat et une lumière qui vient sur moi. Très fort ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour que le Shabbat éclaire en moi. Dès que le Shabbat entre, il y a une lumière qui vient sur moi. Lorsque je profane le Shabbat, je suis en train de profaner cette lumière qui est en moi. Vous me suivez? Je vous donne un exemple. Imaginez que le Shabbat, dès que le Shabbat arrive, tu as le roi qui vient en personne et qui te décore d'une médaille. La médaille, la plus haute distinction possible. Et toi, avec cette médaille, tu viens et tu vas aller te comporter comme un imbécile, tu vas faire des fautes. C'est une profanation. Je dis, mais quoi? T'as attendu d'avoir la médaille? Avec la médaille, tu vas faire la faute?
Quoi, c'est l'âme supplémentaire?
Mais c'est exactement la même chose, exactement. Ouais. Lorsque le Shabbat arrive, il n'y a pas besoin de faire un effort pour que la lumière du Shabbat rentre en moi. La lumière du Shabbat rentre en moi. Même si moi je dis, moi j'ai rien profané, moi j'ai rien demandé. Le Shabbat, je dis, ni tu viens, ni tu pars, ne viens pas, laisse-moi tranquille. Ne rentre pas en moi. Ne rentre pas, je te profane pas. Je te dis, c'est impossible. Dès que le Shabbat est entré, tu as été automatiquement orné d'une lumière supplémentaire qui vient en toi. Et automatiquement, que tu sois ignorant ou pas, c'est les faits, c'est la réalité qui se passe. Même si tu dis que t'es un animal, que tu t'es à côté de la plaque, ça change pas. C'est ce qui se passe. T'as une kedusha qui est en toi. Et lorsque tu profanes le Shabbat, tu es en train de profaner cette kedusha qui est en toi. C'est pas juste que t'as profané la volonté de Dieu. Tu es en train de profaner une sainteté que tu véhicules ça.
On t'a orné de quelque chose, et toi tu profanes, tu dis, mais moi ça m'intéresse pas, moi je vais être habillé sportif, j'ai pas besoin de des affaires. Ça marche pas comme ça. C'est pas toi qui décide. Tu es juif, malgré toi. C'est pas toi qui décide. Le Shabbat est rentré, tu es orné de cette kedusha. Tu profanes le Shabbat, Chas v'Shalom, et ben tu as profané cette kedusha. Pareil pour le Yom Tov. Que tu veux ou que tu ne veuilles pas, arrive un jour de fête, tu es orné de cette kedusha. Tu l'as profané, et ben tu as profané cette kedusha. Même si tu dis je me défais, tu peux pas te défaire de ça. Tu ne peux pas te défaire de la sainteté du Shabbat, c'est pas possible.
Donc on me l'impose.
Oui.
Oh, mais il y a aucun signe.
On me l'impose. Mmh. Ouais. Mais c'est tout le cours d'aujourd'hui.
Il y a plein de gens.
Mais c'est tout le cours d'aujourd'hui. Mmh. On te dit, c'est pas parce que tu ne ressens pas le signal que tu ne le captes pas.
Mais il y a une différence avec tout à l'heure.
Pourquoi ?
Parce que tout à l'heure, quand tu fais la mitzvah, tu crées.
Tu t'en fais. Oui.
Là,
c'est passif.
Tu fais ou tu fais
ouais.
pas.
Exactement, c'est vrai.
C'est pas la même chose. C'est
ça, deux trucs. Sauf que là, je suis passé du commandement positif au commandement négatif. Le positif, on te dit, si tu veux, tu as la possibilité d'ajouter une nouvelle lumière en mettant la tefilin.
De mettre la lumière.
Voilà. Si tu fais pas, tu auras pas.
Voilà.
Là, c'est différent. Là, on te dit, il y a quelque chose qui est en toi. Et si tu te comportes mal, eh ben, tu déshonores, tu profanes la sainteté qui est en toi. C'est très fort, ça. Pareil pour le Hametz à Pessah. Si vous avez un juif qui vous dit, qui va vous dire, moi j'ai pas besoin de Pessah, moi je connais pas ces histoires, moi. C'est pas tranquille, je connais pas, je ne me parle ni de Pessah ni de Pessah, je profane rien du tout. Je profane quelque chose qui est important pour moi. C'est pas important pour moi, je le profane pas. On te dit non. On te dit, même si tu dis que c'est pas important pour toi, c'est important pour toi. La sainteté du Pessah est entrée en toi. Donc dès que tu manges du Hametz, tu es en train de profaner cette Kedusha. C'est tout. Et ça explique. Si on avait dit que la kedusha dépend du ressenti, on aurait dit bon, un ignorant qui profane, c'est pas grave. De toute façon, il n'y aurait rien ressenti. Il est à côté de la plaque. Donc finalement, il a profané quoi? Il a profané un non ressenti. Il a rien profané du tout. Il n'a pas manqué de respect. Pourquoi on punit de la même façon un tzaddik qui profane le Shabbat et un ignorant qui profane le Shabbat? L'ignorant il comprend rien ce qu'il fait. Pourquoi tu punis? On te dit qu'est-ce que ça change que tu comprends? Ce qu'on te raconte, c'est ce qui se passe. Alors bien sûr qu'on travaille sur combien de nuances, c'est une autre question. Je ne parle pas de punition bête, je parle du concept. La profanation est la même. Il y avait une kedusha qui est en moi, je l'ai profanée. Le roi était en moi, je lui ai manqué de respect. J'avais le roi avec moi, en moi, et je suis venu, j'ai dit, Shmater, je te fais pas ce que tu veux. Maintenant, même si je n'ai pas senti que je fais Shmater, ça ne change pas. Tu lui as fait Shmater, tu l'as embêté. Après, ça veut dire qu'il y en a qui ressentent, j'ai ressenti, je veux me battre avec Dieu. Bon, même si tu ne le fais pas. En effet, c'est ce que tu fais. Tu mets un coup de poing à Dieu quand tu fais ça. Tu dis, je viens dans toi, tu me fais ça. Je viens te voir pendant le Shabbat, je te rajoute la kedusha. Et avec moi, tu viens, tu m'apprends, tu m'amènes au travail. Et tu profanes le Shabbat avec moi, dans moi, en toi. T'as pas honte? Tu dis, mais moi j'ai rien senti, moi je suis parti parce que j'ai pas le choix, j'avais un rendez-vous, etc. Ça change pas, là. Les faits sont là. C'est ce qui s'est passé. Donc là, ça fait réfléchir, ça.
Tu as deux cas, celui qui comprend, conscience.
Ça ne change rien.
Oui, mais celui qui ne connaît pas.
Oui, mais je ne suis pas en train. Attendez.
Tu dis ce matin, celui qui sait.
Mais je ne suis pas.
Un interdit va manger du pain pendant machin. Lui prend conscience, il est fou. Il prend des risques.
Je ne suis pas en train de dire qu'on va le punir, qu'il ira en enfer. C'est pas ce que je dis. Je dis la faute n'est pas moins grave. Regardez. Imaginez un adulte. Non, je vous donne un exemple. Imaginez un adulte qui prend ce téléphone exprès, ce matin, il le jette par terre, il le casse. Il dit, ça se fait pas, pourquoi tu casses le téléphone? On a imaginé un bébé qui prend le téléphone et qui le jette par terre. Tu peux pas le punir, deux secondes. Mais le téléphone est cassé quand même. Oui, mais attendez, mais le téléphone est cassé quand même. Voilà. Tu veux dire, oui, mais le pauvre, il savait pas. Non, mais très bien. Deux secondes. Alors, très bien, le bébé, on le punira pas. Mais le téléphone était cassé.
Enfin,
voilà. Le résultat est le même. Le téléphone est cassé. Est-ce que parce que le bébé n'a pas compris, le téléphone n'a pas été cassé? Même chose. Comme ce qu'il y a dans la mitzvah positive, la mitzvah négative. Est-ce que parce qu'il n'a pas réalisé la gravité de ce qu'il a fait, le Shabbat n'a pas été profané? Il a été profané. Alors c'est vrai qu'on pourra le défendre, on pourra dire comme il ne savait pas, donc on ne va pas le punir. On ne le punira pas. Mais le dégât a été fait. Le dégât n'est pas proportionnel à la personne. Le dégât est par rapport aux faits. Les faits sont là. C'est fort.
Mais le coup du téléphone,
on va juste terminer parce que c'est l'heure.
Lui dire,
alors tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mangé un gramme de Hametz.
Un gramme.
C'est rien!
C'est trop, c'est pas beaucoup.
J'ai juste déplacé pendant Shabbat, une petite chose qui est mouktée. J'ai pris un objet qui est mouktée, je l'ai déplacé. C'est rien! On te dit, toi, tu crois que c'est rien. Mais c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça ne se passe pas. C'est pas rien.
C'est pas à toi de décider ce qui est réel ou pas réel. Nous, les Chachamim, tu dis, nous, on t'apprend ce qui se passe dans les coulisses de ton âme. Et que tu veux ou que tu ne le veuilles pas, ça se passe. Tu peux pas te défaire de Dieu. Tu peux pas dire, écoute, Dieu, je me délite ton contrat, je suis plus juif. Ça n'existe pas. On peut pas. Non, mais c'est pas possible. Mais il va dire, ça y est, j'arrête, je suis plus juif. Voilà, Dieu, je veux ni les avantages, ni les inconvénients. Il n'y a pas.
Je joue plus.
Je peux pas. Tu peux pas sortir du jeu.
Il n'existe pas.
Dieu te dit, tu peux pas. Ça veut dire que tu peux être soit un bon joueur, soit un mauvais joueur. Mais tu joues. Tu joues tout le temps, tu n'arrêtes jamais de jouer. On peut pas t'arrêter. C'est fou ça. Tu ne peux pas être disqualifié. Un juif, il n'est jamais disqualifié. C'est pas possible.
Ah, super.
Seulement, des fois, c'est un mauvais joueur.
Comme une pièce de théâtre.
Non, c'est grave.
Pas le droit de te tromper sur le texte.
Alors, je termine avec ça. Il dit, ça veut dire que lorsque je fais une avéra, ça fait un défaut dans mon âme. Comme ça dit, qui t'aura, ratekulanu. Car c'est la même Torah pour tout le monde. Ça, je veux pas rentrer dedans. Ce qu'il dit dans le crochet à la fin du chapitre, il explique pourquoi il dit ici les animaux au pluriel. Le roi David a dit au nom de Asaph, il a dit je suis comme des animaux. C'est pour dire que devant Kadosh Baruch Hu, même les plus sages, même les plus savants, en vérité, tous sont considérés comme. Mais bon, ça ne rentre pas dedans. Mais le concept est très puissant. Ça veut dire que je veux pas, je capte à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on comprend ça, on ne peut pas s'empêcher d'aimer Dieu. Parce que tu dis, attends, Dieu, avec tout ce que j'ai fait, et tu dis, quoi que tu fasses, je t'aime. Quoi que tu fasses, lorsque tu fais une mitzvah que je te demande, tu es connecté avec moi. Même si tu l'as fait pour une autre raison, même si tu l'as fait. Quoi que tu fasses, lorsque tu fais ce que je te demande, tu es connecté avec moi. Tu es connecté avec moi comme Abraham, Yitzhak et Jacob. Quand tu penses à ça, tu ne peux pas ne pas aimer Hachem. Tu te dis, mais je ne dois rien. D'accord ? Enfin, plutôt, il ne me doit rien. Il ne doit rien du tout. Après, il me fait ça. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Parce qu'Hachem, il est gentil avec nous. Et donc, raison de plus pour nous, pour aimer Akadosh Baruch Hu encore et encore et encore. Voilà. Avec ça, on termine Bezrat Hachem, le chapitre 46. Et on continuera avec Bezrat Hachem sur le prochain chapitre 47.
Un, deux.
Allez.
T'es fini là ?
Ouais.
Moi, je dois rentrer. Non, là, attends.
Les 10.
Non.
Ah, si tu sors, on est 10.
Moi, ouais, on est plus 10. Ouais, il faut que je rentre, moi, je finis ici.
Et voilà. Ouais, moi, j'ai déjà fait Marcel.